Manaono, salam, bienvenue sur Malabar. Je suis Simbach, je suis l'hôte du podcast Malabar. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la vanille de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Montage et réalisation de chaque épisode, Maillé, Rami Prod, je vous mets tous les liens dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Gaëtan et bienvenue sur Malabar, comment vas-tu?
Bonjour Saint-Botch, je vais bien. Il fait un peu chaud à Tuléar, mais ça va, on a l'habitude maintenant.
Alors attends, t'as quelle température en ce moment-là?
Aujourd'hui, on est à 31 degrés en ce moment.
Ah oui, d'accord. Et il y a de l'humidité quand il fait chaud comme ça ou c'est une chaleur sèche?
Hier, on a eu une grosse pluie hier matin, on a eu une grosse pluie très soudaine, très brusque et puis qui s'est arrêtée aussi brusquement.
D'accord, ok. Bon, bah, bon courage avec la chaleur. Toi, ça fait longtemps que tu habites à Tuléar, ça fait combien de temps?
Alors, moi, je suis arrivé à Tuléar en 2015. Et donc là, ça va bientôt faire 10 ans que je suis ici à Tuléar.
D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler de toi, de ton parcours, de Greenseek, de déchets. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs?
Oui, donc moi, je suis Gaëtan Radzofer. Je suis né, j'ai grandi en Antananarivo, dans la capitale. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis venu m'installer à Tuléar en 2015. Avant ça, j'ai un parcours assez atypique parce que finalement, j'ai eu plusieurs casquettes. Donc, j'ai d'abord été, de base, j'ai une formation de juriste en sciences politiques. Ensuite, j'étais fiscaliste. Une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis resté un an dans une boîte qui faisait de la fiscalité et des conseils juridiques pour les entreprises. Puis ensuite, en 2012, j'ai rejoint l'Express de Madagascar pour devenir journaliste. Alors effectivement, ça n'a quasiment rien à voir, mais c'est un métier qui me passionnait toujours, le métier de journaliste, et donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et du coup, j'ai sauté un peu sur l'occasion. Puis, en 2015, j'ai arrêté chez l'Express de Madagascar et je suis venu m'installer ici à Tuléar. Avant de monter Greenseek, j'ai travaillé dans une ONG allemande qui s'appelle Weltengerhilfe. Et en fait, c'est un peu grâce à eux et grâce à leur appui, inspiré par leurs actions aussi, que ensemble, on a monté Greenseek en 2017 avec trois autres cofondateurs, Tinasu, Kevin et Marcelio.
D'accord. Waouh, ça fait un beau et long parcours. On va revenir un peu en arrière. Donc, tu disais que tu étais né et tu as grandi à Tana. Comment s'est passée ton enfance? Dans quel cadre tu as grandi? Quel est le regard que tu as porté un peu sur la ville de Tana?
Ben, je pense le même regard que tous les jeunes d'aujourd'hui ont sur Tana. Hein. On notera toujours le détail de la mort qui tue. Tana, c'est une ville sale, vachement polluée aussi. Là, quand j'y reviens, ça, on s'en rend très vite compte. On a un peu des irritations partout. On a un peu du mal à respirer, mais bon, malgré tout, ça reste quand même la ville de notre enfance, là où on a grandi, là où on a traversé des tas de choses, là où on a aussi vécu notre jeunesse. Donc au final, Tana, on s'attache, mais sans vraiment s'attacher, mais en même temps, on ne peut pas ne pas s'attacher. C'est assez compliqué. Et c'est une relation assez particulière, moi, je dirais, Tana.
Quand tu dis une ville sale, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas allés à Tana depuis très longtemps, moi par exemple, une ville sale, ça veut dire quoi? Parce que tu vois, moi par exemple, il y a des villes, il y a des gens qui habitent à Paris qui disent que Paris c'est sale, qui vont à Barcelone, qui disent que Barcelone c'est sale. Je pense que la saleté c'est aussi subjectif par rapport à ce que tu as pu voir et ce que tu peux avoir comme comparateur. Quand on dit Tana c'est sale, on dit aussi que c'est pollué. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la ville?
Ben, Tana, c'est sale dans le sens où on sent vraiment le laisser-aller. Il y a un gros problème d'organisation, hein. Je pense que c'est un problème qui est plus ou moins rattaché aux plus grandes mégalopoles. Est-ce qu'on peut dire que Tana est une mégalopole? Je sais pas. Mais aux grandes villes africaines, dans les grandes villes africaines, on remarque assez souvent ce laisser-aller où au final, tout le monde a un peu le droit de faire ce qu'il veut, mais sans vraiment avoir ce droit-là en même temps. Donc c'est assez paradoxal. Moi, de ce que je constate par rapport à Paris, par exemple, où les gens auront plus l'habitude, ça c'est peut-être une question de mentalité, mais par exemple à Paris, les gens auront plus tendance à serrer sur la droite quand ils sont pas trop pressés et laisser les gens pressés passer à gauche. Tandis qu'à Tana, il faut savoir slalomer, il faut savoir dépasser par tous les sens possibles. Donc, c'est une ville assez paradoxale en elle-même, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'organisation, mais en même temps, il y a quand même une organisation. C'est assez compliqué comme ville. Mais bon, après, Tana n'empêche que ça reste notre ville et que mine de rien, on l'aime quoi qu'elle devienne.
Et tout à l'heure, tu disais aussi que tu trouvais qu'il y avait un peu de laisser-aller. Est-ce que tu trouves que c'est aussi une question d'éducation de la part du peuple malgache? Alors, quand je dis éducation, ça peut tout de suite avoir des connotations très négatives, mais éducation, c'est apprendre. C'est pas forcément dire que les gens sont mal éduqués et ne savent pas faire. C'est juste qu'on leur a pas appris. Donc, du coup, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils ne savent pas. Est-ce que ça vient aussi d'une éducation? Parce que par exemple, tu vois, moi j'ai vécu un peu à Montréal, où en fait tu te rends compte que les Canadiens, les Québécois même, ont cette culture, cette éducation, par exemple, d'utiliser des toilettes publiques et de nettoyer le lavabo après. Ça, c'est des choses en France, en Espagne, tu le verras jamais. Les gens se lavent les mains et après c'est fini, ils partent et nettoient pas. Au Canada, oui, ils vont nettoyer, ils vont prendre un essuie-tout, un sopalin, ce que tu veux, ils vont nettoyer l'eau, ils vont s'il y a du savon, ils vont le retirer. Enfin, tu vois, il y a une éducation qui est très différente. Du coup, est-ce que tu trouves que c'est aussi un manque d'éducation de la part du peuple malgache, d'où la ville qui est sale?
Oui, bien sûr, évidemment, je pense que c'est un peu lié à l'éducation, hein. Mais au-delà de l'éducation, il y a aussi la discipline. Dans des villes comme Paris, par exemple, on peut voir, il y a des toilettes publiques, mais ça n'empêche pas les gens de pisser contre la cabine. Et on se pose la question, mais du coup, à quel moment dans sa tête, il s'est dit, bon, je vais pas entrer à l'intérieur, je vais le faire là dehors. Mais bon, c'est comme ça. Après, Tana, en soi, n'est pas une ville. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, hein. Évidemment, il y a le manque d'éducation. Déjà, on a supprimé l'éducation civique à l'école, ce qui, je trouve, était un peu dommage parce qu'au final, ça forme les nouvelles générations sur comment se comporter en public, tout ça. Mais derrière aussi, il y a l'insuffisance d'infrastructures. Tana manque beaucoup d'infrastructures. Et pas seulement Tana, hein, la plupart des villes malgaches en manquent. Je pense même la plupart des villes africaines, enfin celles que j'ai eu l'occasion de voir déjà. Moi, je dirais que c'est plus un ensemble de facteurs. Il y a plusieurs facteurs, que ce soit lié à la personne elle-même, que même à la ville où elle vit.
Et donc toi, après avoir fait tes études, tu as fait plusieurs métiers. Donc tu en parlais tout à l'heure. On va parler brièvement de chacun. Mais grosso modo, tu es passé sciences politiques, journalisme, fiscaliste avant de fonder ta boîte. Si tu pouvais résumer un peu toutes ces expériences, qu'est-ce que ça t'a appris? Quel regard t'as porté aussi? Parce qu'en général, quand tu fais une filière de droit, ça te permet aussi d'avoir cette vision du fonctionnement de l'État, comment fonctionne l'État, qu'est-ce qu'il peut apporter, quel est son rôle, comment peut fonctionner aussi une démocratie, etc. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté toutes ces expériences?
Ben déjà, je pense qu'il faut remonter un peu aux origines de ces expériences. Pourquoi j'ai fait un peu tout ça? Pour moi, c'était des passions. Bon, déjà, moi, j'adore écrire. C'est vraiment une passion qui me forge. Et puis aussi, surtout, c'était de découvrir un peu comment ça fonctionnait, le système, etc. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, le fait d'avoir fait sciences politiques, par exemple, ça m'a permis de comprendre un peu mieux comment fonctionne l'État. Pas seulement l'État malgache, mais même au niveau des internationales où tu comprends un peu les systèmes politiques en place, etc. Ça t'apporte un peu des idées sur comment tout fonctionne un peu dans le monde, on va dire, entre guillemets. Mais oui, l'idée, c'était en fait, c'était ça, c'était vraiment d'essayer d'assouvir mes passions. Et donc, voilà. Aujourd'hui, ce que ça m'a apporté, bon, déjà une grande ouverture d'esprit, je pense, parce que je suis assez ouvert d'esprit comparé aux gens que je fréquente, on va dire. Ça te permet un peu de savoir comment se passent les choses, les gens, comment les gens pensent aussi, comment aborder certaines questions. Il y a beaucoup de choses, par exemple, en tant qu'entrepreneur, on ne t'apprend pas à l'école. Tu les découvres sur le tas. Et le fait justement d'avoir eu ce parcours-là, ça m'a permis d'avoir déjà des bases pour entreprendre et puis de développer pendant mon expérience entrepreneuriale des compétences que j'imaginais pas que j'aurais.
Mais toi, tu as toujours voulu être entrepreneur ou c'est venu par rapport à ton expérience que tu as eue avec l'entreprise allemande ou tu t'es toujours dit un jour ou l'autre, je serai dans l'entrepreneuriat?
Disons que la collecte de déchets, parce que bon, c'est le domaine où je suis, j'ai beaucoup d'atomes crochus avec tout ce qui est protection de l'environnement et tout ça. C'est quand même un sujet, un domaine qui me passionne. Et effectivement, oui, c'est plus l'ONG, c'est une ONG, c'est pas une entreprise qui m'a donné un peu le pied à l'étrier, on va dire. Mais après, est-ce que je me voyais entrepreneur plus tard? J'avais toujours eu des idées d'entreprise que je voulais monter, mais effectivement, c'était le fait de les réaliser qui était un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, ouais, je pense que ça cadrait un peu avec ma vision des choses de mon avenir.
Et est-ce que la question de rester ou de quitter Madagascar s'est posée ou pas du tout? Pour toi, c'était une évidence de rester à Mada?
Non, pour moi, c'est une évidence de rester à Mada parce que je pense que c'est un pays justement où il y a tout à faire. Justement, on en discutait avec des compatriotes, que ce soit ici ou ailleurs, on se posait vraiment la question qu'est-ce qu'il faut faire pour ce pays? Mais en fait, je pense que aujourd'hui, nous, les jeunes, que ce soit la diaspora, que ce soit les Malgaches sur place, on est vraiment la clé pour essayer d'apporter ce changement qu'on attend depuis 60 ans. Hein. Ouais, on va dire 60 ans, ça fait 60 ans qu'on attend que ça change. Mais je pense qu'on est la clé et je pense que justement, le fait de penser qu'on peut être la clé, ça peut motiver à rester ou à rentrer.
Tu dis, ça fait 60 ans qu'on attend. Est-ce que tu penses que là, on attend toujours ou c'est en train de changer en ce moment?
Moi, je dirais qu'on attend encore parce que bon, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas qui n'avancent pas, de manière correcte, on va dire. Mais bon, je pense qu'un jour ça va venir, le changement, il sera là, mais pour le moment, on n'y est pas encore.
Et alors moi, du coup, je t'ai découvert avec Pepita, la chaîne YouTube lancée par Elsa, que j'ai eu l'occasion aussi d'interviewer sur Malabar. Donc, est-ce que tu pourrais brièvement nous expliquer ce qu'est Greenseek et quel est ton rôle dans cette structure?
Oui, donc Greenseek, en fait, c'était une idée qu'on a montée, comme je l'ai dit, avec l'ONG allemande Weltungerhilfe. L'idée, en fait, c'était de formaliser un métier qui a été fait, qui est pratiqué depuis des années et des années à Madagascar, mais aussi en Afrique, sur le continent africain. On a eu plein de modèles dans le même genre et qui fonctionnent exactement comme ici à Madagascar. L'idée vraiment c'était de formaliser ce métier-là, donc le métier de collecteur de déchets à domicile. Quand je parle de ce métier, je parle en fait de ces petites gens qui ramassent vos poubelles pour, on va dire, 500 milliards par ramassage. et qui ensuite vont les déposer dans les bennes à ordures ou dans les points de collecte, enfin, en fonction de la ville, ça change. Donc l'idée, c'était de formaliser cette activité, déjà en recrutant du personnel, en les salariant. Ça veut dire qu'ils sont sûrs de gagner des revenus fixes tous les mois, en leur offrant des congés, en leur offrant tout ce qui est prestations sociales. À Madagascar, à la place de la CAF, ici, c'est la CNAPS. La sécurité sociale, ici, c'est... Non, l'assurance maladie obligatoire, ici, c'est l'OMIT. Et donc, l'idée, c'était vraiment de leur offrir tout ça et de formaliser l'activité, que ce soit aussi bien pour les employés, mais aussi pour les clients. Quand vous faites appel à un collecteur informel, ça veut dire les petites gens qui ramassent les déchets. En général, il va s'agir de personnes laissées pour compte, donc ça peut être l'ivrogne du village, ou il y en a même qui font travailler leurs enfants pour faire ce type de ramassage. Et donc, ça fait autant d'enfants qui ne vont pas à l'école parce que de toute façon, en ramassant 2, 3, 4, 5 poubelles par jour, ils gagneront beaucoup plus d'argent qu'en allant à l'école, mais pas suffisamment pour pouvoir se construire une vie. Et c'est en même temps le fait de faire appel à ces collecteurs informels, en fait, tu n'as aucune garantie que ce soit le même aujourd'hui, demain, après-demain, parce que tu ne sais pas au final qu'est-ce qu'il devient, est-ce que par un jour, ça ne lui arrivera pas qu'il meure de faim quelque part dans un caniveau? Est-ce qu'un jour, il sera pas coincé dans un bar et puis finalement, il n'a pas pu prendre tes déchets aujourd'hui parce qu'il était occupé à boire, etc. Donc en vrai, ce métier-là, il est pratiquement à 90% pratiqué par des gens qu'on peut appeler des marginaux. Donc l'idée, c'était de formaliser ça, de permettre non seulement aux employés d'avoir de bonnes conditions de travail, mais aussi de permettre aux clients d'avoir un service à l'écoute, donc avec la mise en place d'un service client qui puisse gérer leurs plaintes, qui puisse leur garantir que leurs déchets s'enlèvent de manière régulière et sans que ça leur pose des problèmes, qu'ils n'aient pas trop à réfléchir sur la question qui va jeter mes poubelles aujourd'hui. Voilà.
Et merci, merci pour cette présentation, c'est très clair. Derrière toi, je vois une photo avec des messieurs sur des vélos. Est-ce que tu emploies des femmes aussi, ou c'est majoritairement que des hommes?
Alors malheureusement, c'est majoritairement, enfin malheureusement, c'est que majoritairement que des hommes parce que c'est un métier assez difficile. Nous, on est assez innovant dans notre manière de travailler, justement parce que, par exemple, on utilise ce qu'on appelle des cyclobennes pour travailler. Donc, ce sont des cyclopousses qui ont été réadaptées pour le transport de déchets. Et pareillement, pour évacuer les déchets des clients. C'est assez lourd, donc c'est un métier assez physique. Pour le moment, on n'a pas encore essayé avec les femmes, mais après, on ne trouve pas de femmes qui aient le courage de vouloir essayer aussi. Pour le moment, c'est que les hommes qui essaient. Mais quand même, on essaie de mettre la part belle aux femmes en les mettant au poste de responsabilité. Donc, on a des responsables pour chaque équipe de ramasseurs, par exemple, et donc ce sont des femmes qui les dirigent. Au niveau back-office, tout ce qui est gestion du service client, la paperasse administrative, les ressources humaines, le commercial, etc. On a vraiment mis l'accent sur le fait que ce soit les femmes qui doivent diriger les hommes. Et c'est assez...
Du leadership féminin, très bien.
Oui, voilà, c'est plus dans cette vision-là qu'on a fait les choses parce que, bon, le métier, il est assez physique. Et puis même, on n'a pas encore trouvé de femme assez courageuse pour nous dire, allez, vas-y, moi, je vais ramasser les déchets.
Et concrètement, vous employez combien de personnes aujourd'hui pour collecter les déchets, pour avoir une idée du nombre d'employés que tu as?
Alors aujourd'hui, bon, pour le moment, on n'est que sur Tuléar, mais on est en train d'étendre nos activités sur d'autres villes de Madagascar. C'était assez un parcours du combattant parce que c'est le contexte et tout ça, et il se prêtait pas forcément après le Covid. Mais aujourd'hui, on a une trentaine d'employés qui sont répartis entre les ramasseurs que nous on appelle des pré-collecteurs, parce qu'ils font ce qu'on appelle la pré-collecte, et les vulgarisateurs qui sont chargés de superviser les pré-collecteurs et puis de sensibiliser les clients, de un peu la force commerciale de notre entreprise, et le back-office qui s'occupe de tout ce qui est gestion des ressources humaines, la petite comptabilité, etc., le fonctionnement, enfin le fonctionnement au quotidien. Donc en moyenne, on va dire une trentaine d'employés aujourd'hui.
D'accord, une trentaine et vous êtes trois à avoir cofondé Green Six, c'est ça?
Non, on est quatre. On est quatre, quatre.
D'accord, et vous avez des rôles différents tous les quatre? Est-ce que tu peux nous parler un peu de vos rôles de chacun?
Oui, en fait, l'idée aussi, c'était de combiner un peu les compétences. Donc, on a Kevin qui est plutôt spécialisé dans la partie informatique, parce qu'en fait, Greensick, on a vraiment misé sur les nouvelles technologies pour gérer notre service. Aujourd'hui, on est ce qu'on appelle une clean tech, donc clean, propreté et tech pour technologie. Puis il y a moi qui gère toute la partie opérationnelle avec le fonctionnement au quotidien, la gestion des employés, etc. Il y a Tinasu qui s'occupe de toute la partie financière et lui il est spécialisé dans l'économie sociale et solidaire parce qu'en fait Greensick est une entreprise sociale. On n'est pas là pour faire du chiffre, du bénéfice et nous le redistribuer en dividende derrière. Au contraire, on est une entreprise sociale et les dividendes c'est pas pour nous, c'est pas pour nous associés, c'est pour les injecter ensuite directement dans l'entreprise. Et puis il y a Tinasu, non, pardon, il y a Marcelio qui lui est spécialisé dans tout ce qui est gestion des déchets, recyclage, tout ça. Donc ça, l'idée d'avoir une personne qui est vraiment spécialisée dans le domaine des déchets, c'était pour l'avenir où le jour où on a suffisamment de fonds, on puisse proposer des solutions clés en main aux villes. En leur disant, voilà, nous on s'installe et on va traiter, recycler, collecter de vos déchets et ça vous fera un problème en moins à gérer.
Et tu disais que l'idée, c'était pas de faire du bénéfice, pas de faire de chiffres, mais vous vous dégagez des salaires quand même.
Non, pas forcément, parce que du coup, c'est vraiment l'idée de l'entreprise sociale en fait. Ceux qui sont sur la partie active, bien sûr, ils se dégagent des salaires, mais. On va dire, il y en a qui sont un peu plus passifs et du coup, c'est pas tout le monde qui se dégage un salaire.
D'accord. Et comment ça se passe de gérer une boîte à quatre? Est-ce que vous étiez copains avant? Est-ce que vous vous connaissiez? Vous êtes connus via ce projet? Parce qu'on parle souvent du fait d'avoir des partenaires, des associés, des cofondateurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation que vous avez tous les quatre?
Ben en fait, nous, on se connaissait pas vraiment avant. On s'est plus rapprochés au fil des ces dernières 5 années. Ces dernières 5 années, ouais. En global, de manière globale, on va dire que ça se passe assez bien. Bien sûr, on a des dissensions des fois. On a des petits problèmes entre nous, mais ça va, on arrive. Pour le moment, jusqu'à présent, on a plus ou moins réussi à gérer. La particularité aussi, c'est que les associés sont pas dans le même pays ni dans les mêmes villes. Donc, il y a moi, je suis à Tuléar, je suis basé à Tuléar. On en a un autre qui est en Chine, il y en a un autre qui est en France, et il y en a un autre qui est à Diego Suarez. Mais par contre, notre petite fierté, effectivement, c'est qu'on est tous malgaches et que derrière nous, on n'a jamais eu d'intervenants étrangers, des Vasa ou des Karan ou j'en sais rien. Et ça, c'est quand même notre petite fierté à nous parce qu'on a réussi quand même à lancer une entreprise 100% malgache, 100% innovante aussi. Et d'ailleurs, notre palmarès en témoigne. On a un palmarès assez fourni depuis 2017 et jusqu'à aujourd'hui.
Parce que ça, c'est assez rare, Amada. Il y a souvent des non-malgaches qui sont derrière des boîtes.
Non, c'est pas que c'est rare, mais en fait, quand on explique aux gens comment Greensick fonctionne, le premier réflexe des gens, c'est de se dire, ah là là, mais Maher et Fazaret, ça veut dire, ils en connaissent des choses, les Vaza. Et justement, on leur dit, mais non, il n'y a pas de vaza, c'est que malgache, c'est du 100% malgache.
Mais après, c'est peut-être une façon de. Enfin, après, c'est peut-être historique, enfin, j'en sais rien. Mais on dit souvent ça, oui, Maher et Fazaret, oui. En sous-entendu qu'il y aura toujours des vasas qui vont montrer au malgache.
Donc du coup, je disais, oui, effectivement, la mentalité malgache, elle est un peu abîmée par cette vision qu'on a du Vaza, où pour nous, le Vaza, c'est quasiment un dieu. Justement, on nous dit souvent à moi, enfin, on me le dit souvent à moi, moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu sais dire non. En général, quand un Vaza parle à un malgache, le malgache va toujours dire oui, t'as raison, parce que comme il est blanc, donc il sait tout, il sait tout faire. Mais alors que c'est pas vrai, au contraire, on est malgache, effectivement, on a des connaissances, on sait faire des trucs. Et justement, on a ce manque de confiance en nous qu'on ne trouve rassurant que si c'est un Vaza qui l'approuve. Alors qu'au contraire, non, on sait faire des choses. Il y a beaucoup de malgaches qui savent faire des choses, mais parce qu'on n'a pas cette confiance en nous, on attend toujours l'approbation du Vaza pour dire ouais, c'est bon, on va le faire.
Mais t'as pas l'impression qu'avec les générations, ça commence à changer? Peut-être que c'était vrai encore plus à la génération de nos grands-parents, un peu moins avec la génération de nos parents, beaucoup moins avec nous, ou t'as l'impression que c'est toujours pareil?
Moi, je dirais que c'est toujours pareil parce que il y a beaucoup de Vazas, d'immigrés. On va dire immigrés parce que c'est pas des expats. Pourquoi quand nous on vient dans leur pays, on devient des immigrés et quand eux ils viennent dans nos pays, ils deviennent des expats. Mais donc du coup, il y a beaucoup d'immigrés ici, d'immigrés blancs, qui se comportent un peu comme en terrain conquis, comme s'ils étaient les maîtres du pays et tout ça. Et justement, je pense que ils ont cette mentalité-là parce qu'on les a habitués à avoir cette mentalité-là. On les a habitués à se comporter comme si c'était eux qui savaient tout, comme si c'était eux qui étaient les plus riches, comme si c'était eux qui savaient tout. Du coup, en fait, ils se confortent dans leur idée de toute puissance.
Et
Alors que
justement, en parlant de Vaza, il y a quelques semaines, tu étais à Paris pour le salon Ambition Africa, notamment avec la marque Tsenob. Donc, j'avais eu l'occasion d'interviewer Joël aussi sur le podcast Malabar. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de commentaires sur ce salon négatifs aussi de beaucoup d'Africains qui disaient que la France faisait ce genre de choses juste pour entre guillemets, promouvoir les gens qui ont des startups en Afrique, mais qu'au final, derrière, il n'y avait rien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce salon, de ce 1, 2, 3, de ce que ça a pu t'apporter et en fait, ton retour d'expérience?
Alors là, on est complètement à chaud parce que ça fait moins d'une semaine qu'on a fait le salon. Moi, je pense que il faut pas toujours voir les choses de manière négative comme ça, dans le sens où, et bon, effectivement, ils ont raison. D'un côté, la France essaie d'embellir un peu son image face à l'expansion chinoise, par exemple, ou les Russes, etc., leur mainmise sur le continent africain, on va dire. Mais c'est pas forcément un mauvais côté des choses, parce qu'après, ça dépend de la manière dont on prend les choses. Effectivement, il n'y a eu rien pour toi d'intéressant là-bas si t'as rien fait de spécial. C'est sûr que si toi aussi tu ne bouges pas derrière, t'auras juste profité du voyage et puis du séjour, et puis voilà. Mais derrière, moi, je pense que justement, il faut savoir profiter de ce genre d'opportunité-là. Et français ou autre, pour moi, ça revient à la même chose au final. Est-ce que c'est ça, c'est comme ça les choses. Et puis voilà, justement, en tant que start-up, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, c'est à nous de faire nos preuves. On n'a pas à attendre de la France ou de la Chine ou de la Russie qu'ils viennent nous apporter leur aide, etc. C'est à nous de faire nos preuves avec ce qu'on sait faire, avec ce qu'on maîtrise, etc. Donc du coup, je comprends d'une certaine manière cette vision un peu des choses, mais en même temps, derrière, je donne tort à ces personnes parce que justement, il n'y a pas de raison que ce soit pas toi en tant que personne, en tant qu'être humain, de ne pas développer ton réseau, tes opportunités, tout ça, pour ton entreprise ou pour ton travail.
Et donc, pour ceux qui nous écoutent et qui sont en train de penser à des startups ou qui sont déjà en cours de lancement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus de comment tu t'es retrouvé à ce salon? Est-ce qu'il faut candidater? Est-ce qu'il y a un appel d'offres? Comment ça se passe?
Alors, en général, ces salons-là, oui, effectivement, c'est des invitations qu'on donne aux entrepreneurs. Je pense déjà c'est la force du réseau, hein, d'être invité à ce genre de salon. Puis derrière, effectivement, il y avait un appel à projet, mais aussi au-delà de tout ça, c'est aussi il faut savoir montrer à quel point on est sérieux et à quel point l'activité peut apporter ou changer des choses, que ce soit pour dans un sens comme dans l'autre.
Et il y a eu beaucoup de malgaches qui étaient à ce salon. Est-ce que vous en avez rencontré est-ce que tu en as rencontré beaucoup ou est-ce que vous connaissiez déjà?
Alors, au départ de Madagascar, nous, on était quatre. Il y avait quatre entreprises, deux de Tuléar et deux de Antananarivo. Ensuite, sur place, ben, évidemment, bien sûr, il y avait beaucoup de malgaches. Je pense qu'on était au moins une vingtaine de participants au salon. Sur les 1 600 participants du salon. Et oui, je pense que oui, voilà.
Et il y avait de la solidarité. Est-ce que tu as senti qu'il y avait ce patriotisme autour du fait que vous étiez tous malgaches ou pas plus que ça?
Si, bien sûr. Bah, c'est à Paris, quand tu rencontres un malgache, tu es toujours content de parler en malgache, de se donner des nouvelles du pays, de voir un peu comment les choses fonctionnent, de se faire des petits retours d'expérience sur ce qu'on fait respectivement. Donc, effectivement, évidemment, bien sûr qu'il y a toujours cette prise de contact et tout ça.
Tout à l'heure, tu disais que donc Greensick était opérationnel aujourd'hui à Tuléar et que vous avez l'ambition d'ouvrir dans d'autres villes. Est-ce que tu pourrais nous partager aussi tes objectifs à moyen, long terme pour Greensick? Comment tu vois les choses grandir pour ton entreprise sociale?
Alors, nous, dans l'idée, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était de proposer des solutions clés en main aux villes et aux municipalités pour mieux gérer leurs déchets. Donc, pour le moment, nous, on s'occupe principalement de pré-collecte, donc le fait d'acheminer les déchets vers les points de collecte ou les bennes à ordures. Ça, c'est notre tâche principale aujourd'hui. Mais à terme, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir avoir la capacité de traiter, recycler, trier aussi les déchets et en fait d'éviter ce qu'on appelle l'incinération sauvage et l'enfouissement sauvage. Ça, c'est ce qui est une pratique très 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 répandue en Afrique où justement les ménages, ben, pour pas trop se prendre la tête avec leurs déchets, ils vont creuser un trou dans leur cour ou dans leur jardin et soit ils brûlent leurs déchets dedans, soit ils les enterrent et avec toutes les conséquences possibles que ça peut avoir sur l'écosystème.
Et la partie où je voulais un peu t'emmener, mais tu l'as pas évoqué, est-ce qu'il y a une partie où vous souhaitez aussi, tout à l'heure tu parlais du fait qu'on avait supprimé l'éducation civique, est-ce que l'éducation, la formation, sensibilisation aussi des plus jeunes, c'est des choses que vous avez aussi en tête pour Greensick?
Alors oui, effectivement, ce sont aussi des choses qu'on souhaiterait mettre en place. Essayer par exemple de mettre en place des partenariats avec les écoles pour peut-être par exemple de manière hebdomadaire une petite heure d'éducation, de responsabilisation à la gestion des déchets pour les enfants. Mais bon, c'est surtout une histoire de moyens.
Là où il y aura besoin des femmes pour transmettre
Ouais, tout à fait. Et puis les moyens, quand on parle de moyens aussi, c'est un peu financier parce que
financier,
bon.
ben oui.
C'est bien d'avoir des idées, mais malheureusement, les idées ont besoin d'argent.
Oui, bah oui, pour les mettre en œuvre. J'ai aussi interviewé Zina sur le podcast qui est à la tête de Indo Company. Je sais
Ouais.
pas si vous connaissez peut-être d'ailleurs puisque vous êtes dans le
Oui,
même
ben
secteur.
non, oui, bien sûr, on se connaît, enfin, on se connaît, on a déjà discuté ensemble de temps à autre, quand on se croise.
Puisque vous êtes sur le même créneau du coup, sur vraiment les
Ouais,
déchets.
tout à fait. Tout à fait. Bah, normalement, on devait se voir d'ailleurs, mais bon, on n'a pas pu se
Ça s'est pas
voir.
fait. Aujourd'hui, Greensick, ça va faire 6 ans Vous allez entamer votre septième année. Qu'est-ce que ça t'a appris, toi, de...
Ça fait 5 ans cette année.
Ah, pardon, ça va faire 5 ans. Qu'est-ce que ça t'a appris, toi, au niveau personnel, au niveau professionnel, est-ce que ça t'a changé ton regard sur MADA, sur la population, si tu faisais un peu une rétrospective personnelle de ce que GreenSeek t'a apporté?
GreenSeek, ça m'a apporté énormément de choses, hein. C'était des opportunités formidables, c'était aussi des histoires formidables, des expériences aussi formidables. J'ai rencontré vraiment énormément de monde à travers ces 5 dernières années. J'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de personnes, que ce soit pour celles qui travaillent pour moi ou celles qui nous ont aidés ces 5 dernières années. Je pense que moi, ce qui m'a apporté principalement cette expérience, en fait, c'est vraiment, ça montre à quel point, en fait, les Malgaches ont la capacité de faire des choses pour ce pays. Moi, quand je parle de Malgache, j'englobe tout le monde, hein. Et ah oui, et puis je dis pas aussi Malagasse, parce que ça, c'est un faux débat. Je comptais juste sauver ce petit débat-là. Mais ça, c'est vraiment le faux débat inutile qui va pas développer le pays. Mais je pense que les Malgaches ont vraiment cette capacité de changer les choses. Et au final, c'est ce que moi j'ai constaté, parce que, par exemple, juste au niveau de mes employés, où nous on travaille beaucoup avec des gens qui sont pour la plupart analphabètes, et on a réussi à les accompagner à se développer eux-mêmes, en leur apprenant, par exemple, en leur donnant des cours d'alphabétisation pour adultes, on leur a donné des cours d'informatique. Moi, j'ai vraiment vu des gens qui, ils avaient à peine s'ils avaient des diplômes, mais aujourd'hui, ils utilisent un ordinateur comme une personne qui, comme nous, quoi, comme, enfin, comme nous. Quand je dis comme nous, je veux dire comme nous, qui avons été un peu plus éduqués, etc. Et franchement, toutes ces choses-là, c'est effectivement, c'est des petites choses. C'est des petites choses. On peut se dire, oui, mais au final, qu'est-ce que ça va apporter à la population, tout ça. Mais je pense que justement, on a cette vision des choses qui a été abîmé, on va dire, par l'aide humanitaire, les actions des ONG, etc. Mais le Malgache est capable de faire des choses, mais tellement énorme que on s'en rend même pas compte, en fait. Et justement, il faut donner cette chance aux personnes, il faut les aider, il faut les pousser à faire quelque chose, parce que même la personne la plus inculte du pays peut sortir quelque chose de même nous on s'attendait pas. Voilà.
Merci pour ce retour, Gaëtan. Avant de terminer, j'ai quelques questions pour toi, qui sont des questions d'ordre personnel sur ta vision sur Madagascar. Est-ce que tu es prêt?
D'accord.
Quel est ton lieu préféré à Madagascar?
Mon lieu préféré, ce serait... plus la mer, hein. Moi, du moment qu'il y a la mer, ça me plaît. la mer propre.
La mer propre. ton plat malgache préféré?
Mon plat malgache préféré, le raftout, mais de ma femme, exclusivement.
Favoritisme. Ton plus beau souvenir à Madagascar?
Mon plus beau souvenir, ce serait... après c'est un peu gnangnan, mais c'est un peu cliché aussi, mais ça revient par rapport à ce que j'ai dit, c'est quand ma première employée qui travaille avec nous depuis 5 ans a envoyé son premier mail et qu'elle a pas arrêté après.
Mais c'est bien, non mais c'est bien.
Oui, parce que l'idée, en fait, elle savait lire, elle savait écrire, mais même démarrer un ordi, elle l'avait jamais fait. Et franchement, ça a été un moment de fierté, évidemment, parce que c'est moi qui lui ai appris. Et puis de savoir que voilà, si un jour elle part, au moins elle peut mettre dans son CV, je sais utiliser un ordinateur maintenant.
Un mot ou une expression qui pour toi résume très bien Madagascar?
Un mot, combat, je pense. Combat. Ouais, je dirais, voilà. Pour le moment, on en est là. On en est au combat.
Et pour terminer, est-ce que tu as un message que tu aimerais passer à l'audience de Malabar? Ça peut être en malgache, d'ailleurs, comme tu veux.
En fait, mon message, ce serait un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est malgache qu'on n'a pas les capacités de le faire. Moi, je pense qu'on est capable de faire des choses. Moi, j'ai vu ça avec GreenSeek, en sachant que nous, par exemple, quand on a commencé, il y a beaucoup de gens qui disaient ça marchera jamais. Puis arrêtez de mettre toute cette technologie dans votre truc, ça marchera jamais. C'est impossible que que ça marche. Les gens sont pas prêts pour ça. Alors que finalement, non, en fait, les gens étaient prêts pour ça. Et voilà quoi.
Merci beaucoup, merci Gaëtan pour ton temps et on te souhaite une très bonne continuation avec GreenSeek.
Ben, merci beaucoup, Sambach, et puis merci de m'avoir reçu sur Malabar, et au plaisir de se revoir.
À bientôt.
L'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Malabar, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une aventure à travers Madagascar. Ce podcast, c'est également le vôtre. Alors si vous souhaitez partager votre histoire ou si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être entendu, n'hésitez pas à nous contacter sur malabar.fr ou sur LinkedIn, Sambach Rapefarnouche. Ensemble, continuons à explorer les joyaux cachés de Madagascar. Amanarakanjeyo, velum!